pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est Page après page, une rencontre intimiste entre un auteur et moi-même, Gisèle, pour vous servir. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Laure Frottin. C'est la toute première fois que je la reçois. Laure Frottin est une paysissoise d'adoption. Bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Evanescence avec My Immortal. Qu'est-ce qui a guidé votre choix ?
Eh bien, ce morceau a guidé plusieurs années de mon adolescence. une adolescence un peu difficile. Et oui, ce morceau a été souvent source de... Je veux dire, a été assez salvateur, souvent.
Mmh. Vous nous présentez aujourd'hui votre tout premier ouvrage. Il s'appelle « Prêt temporel ». C'est paru en 2020 chez JDH Éditions. La couverture est triste, mais avec une note d'espoir. Est-ce que c'est vous qui l'avez choisi ?
La couverture, non, c'est l'éditeur qui me l'a proposé. Après, ça a été un choix commun. Mm-hmm. C'est sûr que cette couverture représente totalement l'esprit du livre et puis représente très bien, illustre très bien l'histoire du roman.
Oui, tout à fait. C'est une terre très aride qu'il y a sur la couverture avec juste un coquelicot comme espérance, c'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument.
Mm-hmm. Est-ce qu'il a été difficile d'écrire un livre comme celui-là, parce qu'il est dur, il est triste, et je ne voudrais pas trop en dire à nos auditeurs pour qu'ils aient envie de l'acheter?
Oui, merci beaucoup. Non, ça n'a pas été difficile. Au contraire, comme Évanescence que vous avez passé juste avant, ce livre, pour moi, a été salvateur. Je l'ai écrit 20 ans après les faits que vous pourrez retrouver dans le livre, puisqu'il y a des choses qui sont l'histoire réelle, d'autres après, évidemment, imagées, inventées, extrapolées. Mm-hmm. Mais c'est vrai que ça a été pour moi, j'ai mis 20 ans à l'écrire sûrement hein, dans ma tête. Et c'est sorti, le livre a été fait en 2 mois, donc ça a été très rapide.
Ah,
et
carrément.
C'était le moment. Ouais. Donc ça a été plutôt pour moi une très bonne chose. Ça a permis d'avancer, tourner une vraie page de vie.
D'accord. Vous dites que c'est en partie vrai, qu'il y a de la fiction aussi. Mais dans ces moments de fiction, je suppose que tout est inventé, mais les moments durs et tristes sont réels ou plus fiction ?
Non, les moments durs et tristes sont réels. Et après, les moments d'espérance aussi. C'est plus dans les personnages qu'il y a des personnages que j'ai souhaité vraiment inventer. Et d'autres, par contre, se sont reconnus assez rapidement à la lecture du livre, puisqu'ils font partie de mon entourage, plus ou moins proche pour certains.
Oui. Nous faisons au fil des pages de ce livre la connaissance d'Isabelle et de Karl. Qu'est-ce qui fait que l'on ne voit pas les choses? Ou alors, est-ce qu'on ne veut pas les voir quand deux êtres se rencontrent ?
Je pense que quand deux êtres se rencontrent, on découvre, et après c'est qu'un avis personnel. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'on est tellement sur l'envie de vivre quelque chose, de se projeter dans une histoire, qu'on peut en effet occulter une partie plus ou moins grande de la personne qu'on voit en face, des parties qui pourraient en tout cas nous déplaire. Après, je crois beaucoup à l'intuition. Je pense quand même qu'on se doute, en tout cas qu'une partie de nous doute. Mais après, c'est la raison qui fait le reste, ou en tout cas plutôt l'envie de s'établir qui fait qu'on peut occulter une grande partie de la personne qu'on rencontre.
Oui. Ça va être difficile de parler de ce livre parce que je ne veux pas trop en dire. Je voudrais aussi laisser cette part de mystère pour les auditeurs. Mais qui est Isabelle ?
Isabelle, c'est une partie de moi, tout simplement. Il y a une partie qui est, qui est Isabelle, une partie d'Isabelle, c'est moi.
Mm-hmm. Karl, lui, qui est-il ?
Karl a une partie aussi de quelqu'un qui a fait partie de mon passé. Justement, grâce à ce livre, ça m'a permis aussi d'en parler à des personnes très proches de moi qui ont vu les choses mais n'ont pas pu intervenir ou en tout cas ils s'en sont rendus compte après parce que la vérité sur le moment est tellement dure à comprendre que parfois on en perd les moyens, même des personnes qui vous aiment et qui voudraient vous aider n'y arrivent pas et ne peuvent pas, sont démunis tout simplement. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a fait partie de mon passé, une partie de lui en tout cas, une partie de ce personnage. Puis, sachant que les prénoms, évidemment, sont complètement fictifs hein, pour préserver l'anonymat des gens. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me permet de parler de ce personnage de manière, de manière tranquille et sans plus de colère du tout. Vous voyez, le pouvoir d'un livre, parfois, c'est assez extraordinaire.
La maison, est-ce qu'elle existe vraiment ou est-ce qu'elle est sortie tout droit de votre imagination ?
Alors, la maison, c'est... Non, elle est sortie de mon imagination. Après, le style de maison, j'ai eu l'occasion d'en voir beaucoup. Et ce serait, on va dire, la maison de mes rêves, hein, tout simplement. Donc, c'est sorti de mon imagination, mais d'un vrai... c'est un peu la maison idéale pour moi.
Oui. Ce livre, c'est 74 chapitres et l'épilogue. Est-ce qu'Isabelle trompait sa vie à travers le bon vin? Parce qu'à un moment, j'ai eu cette intuition.
Isabelle, oui, Isabelle aime, en fait, elle peut être dans l'excès, elle aussi. Et c'est vrai que parfois, elle peut avoir ces dérives-là, mais pas forcément. Non. Je pense que Isabelle, elle essayait de se sortir de sa vie. De n'importe quelle manière, que oui. Ce fût avec le bon vin, avec la musique, avec la lecture, la marche, et surtout beaucoup de rêves.
Oui. Pensez-vous qu'une situation comme ça, vous laissez entendre à l'auditeur qu'il peut y avoir des antécédents familiaux ou pas?
Non, ce serait un jugement ou en tout cas de valeur. Non, pas du tout, vraiment. Je pense au contraire, d'ailleurs, pour vous dire, je pense qu'au contraire, pas n'importe qui, mais en tout cas, on est tous à même de pouvoir un jour ou l'autre tomber dans une addiction. Mm-hmm. Là, l'alcool, en effet, après, je pense qu'on est tous, à la merci de ça. Je crois beaucoup que les événements, la façon dont on se projette ou on vit les événements peuvent faire que rapidement, on sombre et qu'on trouve des radeaux un peu partout.
Oui. Est-ce que dans l'entourage d'Isabelle, en tout cas ce qu'elle prenait pour ses amis, ne sont pas aussi des mensonges quelque part? Parce que personne ne l'aide à cette pauvre femme.
Oui, personne ne l'aide, c'est vrai. En même temps, je vais vous dire que c'est peut-être bien, parce que c'est ce qui a fait aussi qu'elle a cette force extraordinaire, qui fait qu'elle s'en sort, ou en tout cas qu'elle a toujours cette... cet espoir qui est très présent dans le livre et dans sa vie. C'est justement, je crois, qu'elle peut leur dire merci à ces gens-là qui ont pas su, pas voulu voir, en tout cas qu'ils ne l'ont pas aidé quelque part. Je pense qu'au contraire, c'est en ne faisant pas qu'ils ont aidé.
Mmh. D'accord. Les titres des chapitres donnent le « là », parce que quand on lit que la page du sommaire, justement, où on voit tous ces titres, on comprend tout de la vie d'Isabelle, l'averse, les grêlons, la gelée, tous ces titres, c'est vous qui les avez trouvés ou vous avez cherché un petit peu ou vous les avez mis avant, après, comment ça s'est passé?
Je les ai mis après avoir écrit le livre. J'ai de la chance dans mon entourage d'avoir une sœur qui m'a vraiment épaulée, En fait, le livre était fait, mais grâce à elle, on a pu le scinder en chapitres, lui donner vraiment une forme qui, je trouve, est intéressante et qui est brute et abrupte, comme peut l'être le livre. Et c'est grâce à elle que, ensemble, on a cherché, on a proposé, on est resté dans ce champ lexical des saisons. Qui, moi, j'adore les saisons. Je prends beaucoup de photos, en fait, et de plus en plus cela ces dernières années. Mm-hmm. Et c'est vrai que ça a été donc fait après à l'aide de ma sœur, que je remercie encore énormément. Et oui, c'est vrai que ces titres, en fait, représentent ce qu'il y a dans le chapitre. Enfin, en tout cas, la manière dont ça a été écrit, même, oui. Parce que souvent oui. J'ai écrit aussi en grêlon ou
oui, tout
en
à
tout
fait.
Cas en ouragan. Ouais. Mm-mm.
Est-ce qu'il a été difficile d'écrire avec les mots, les vrais, de la sexualité bafouée? Ou est-ce que ça vous a fait un petit peu hésiter quelquefois?
Non, en fait, j'ai jamais hésité. Quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit comme je respirais. Comme je vous dis, c'est venu très vite. Et c'est venu avec les mots du moment. Et non, j'ai jamais hésité. D'ailleurs, j'ai jamais non plus repris derrière ce qui avait été écrit, la façon et les mots avec lesquels ça avait été posé sur le papier, quitte à déranger, choquer, surprendre. mon entourage, j'y suis allée comme ce livre devait vivre en fait. Hein.
C'est pas surprenant, ça ne choque pas non plus, parce que finalement je me suis rendu compte que vous écrivez comme la vie que vous avez dû vivre, c'est-à-dire scandé de coups de pied, de coups de poing, c'est ça ?
C'est ça.
C'est fort, c'est fort, il n'y a pas d'autre mot, c'est immense. Comment est la femme ainsi à la merci de son bourreau ? Est-ce qu'elle a conscience justement que l'homme qu'elle aime est un bourreau ?
Dans le livre, Isabelle en a conscience, on a complètement conscience. Après, dans la vie de tous les jours, je crois qu'au début, il y a une telle fascination de l'autre, et une telle emprise, enfin une telle dépendance, que finalement on accepte l'inacceptable. Et après, on accepte l'inacceptable. Mais là, dans le livre, en tout cas, elle en est consciente. Hein, elle en est complètement consciente.
Ouais. Oui. Est-ce que revivre ces mots et les écrire, les mettre sur la page blanche, est-ce que ça c'est difficile parce que ces mots, c'est du passé? Mais ça renvoie aussi en pleine figure tout le vécu, surtout pour Isabelle.
Ouais, mais justement, moi vraiment, ça m'a permis de tourner une vraie page, d'accepter et de tourner une page et de grandir. Ce livre m'a vraiment fait grandir, a permis de libérer aussi, je vous dis, la parole dans mon cercle de connaissances ou familiales, etc. Et après, ce que j'espère, c'est que ça permet aussi d'ouvrir les yeux à certains hommes qui m'ont dit, en tout cas, avoir été aussi très touchés par ce livre, parce qu'il y a des hommes aussi hein, qui vivent oui. Ça, soit du côté des hommes un peu maltraités, ou après des hommes qui ont fait comme Karl, oui. Et qui se rendent compte du mal qu'ils ont pu faire, parce que même s'en sont sortis, des hommes qui ont tout perdu, ou en tout cas, moi ça m'a vraiment fait un bien fou hein, d'écrire ce livre, et ce que j'espère, bon j'ai eu quelques retours en ce sens, mais c'est vrai que ce que j'espère, c'est que ce livre a aussi et fera encore du bien, ou en tout cas ouvrira les yeux à des personnes qui le liront.
Oui, je pense aussi. Pourquoi est-ce qu'Isabelle ne s'est jamais sauvée ?
Parce qu'elle n'en avait pas le courage, et que peut-être que parfois aussi, ça l'aidait bien et ça lui allait bien d'avoir un homme comme ça, parce que pendant qu'il n'était pas sur son dos, en tout cas, elle pouvait elle aussi aller trouver des bulles d'air ailleurs. Je pense que dans l'excès de son conjoint, elle aussi a pu vivre des excès qu'elle n'aurait peut-être pas vécu avec une vie plus ordinaire, malgré tout l'horreur de ce qu'elle peut vivre. Hein. En même temps, je pense que parfois, elle s'y complaisait aussi. Donc, il y a un peu de tout ça. Pourquoi elle ne s'est pas sauvée.
C'est fort quand vous dites qu'on se complaît dans une situation comme celle-là.
Oui, parce que il y a beaucoup d'horreur. Et en même temps, quand l'horreur n'est pas là, on savoure aussi chaque moment sans ces horreurs. Tout est amplifié, démesuré. Autant l'horreur est immense, autant les moments où elle peut prendre l'air, où elle peut s'échapper, que ce soit par la pensée ou s'échapper par des moments de différentes manières, en tout cas, elle savoure ça de manière exponentielle aussi. Mais je sais que c'est dur à... Je sais
ah,
que
ça oui. peut être... oui, à lire, dur à... C'est dur, mais en même temps, c'est la réalité qui est en face, quoi. C'est vrai que c'est... C'est à contresens peut-être ce que je dis, mais c'est ça quoi. Comment est-ce qu'Isabelle peut vivre justement dans l'attente d'échapper à la torture ? Parce qu'on dirait que quand Karl revient, elle ose imaginer que peut-être cette fois ça va passer.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui représente l'espoir, qui est solaire et qui a toujours envie d'y croire et qui voit toujours la belle face des gens. Et pas le reste. Et dans toutes les rencontres qu'elle peut faire, Isabelle, chaque personnage, elle met en avant en fait la face. Enfin, en tout cas, elle veut voir, oui, la face ange, je veux dire, des oui. gens. notamment de Karl. Et cet espoir qui peut sembler complètement idiot quelque part, en fait, parce qu'on se dit, mais tu, ne vois-tu pas que tout est déjà fini, que cet homme-là est perdu, ben, en fait, je crois que parfois, c'est vraiment quand on touche le fond que... Et même quand on croit qu'on a touché le fond, on peut encore aller plus bas. Et c'est vrai, hein. Mais ouais, je crois qu'elle a, elle a envie, elle a toujours envie d'y croire. Ouais. Espoir, un espoir fou, hein.
Oui.
Un espoir fou.
À la page 61, dans le chapitre de Graines d'espoir, comment est-ce qu'Isabelle peut-elle aimer Karl, comme elle l'explique justement dans ce chapitre, parce qu'elle l'aime quand même.
Ouais. Oui, oui, elle l'aime. En fait, je crois que ce qu'elle aime, c'est plus ce qu'ils ont pu, à un moment, vivre ensemble. Donc, elle aime des souvenirs. Mm-hmm. Elle aime une partie de ce qu'ils ont vécu, tout simplement. Et elle reste vraiment rattachée à ça, en fait, à un moment donné de leur vie. Et c'est ça qu'elle aime. Hein. C'est pas forcément l'homme qu'elle a, en tout cas, sur le moment, devant elle.
Oui.
Ça, c'est sûr.
Oui. Isabelle dit aussi que Karl est un boulet, un rustre, un porc. Je l'ai choisi. Ça, j'ai trouvé que c'était très fort parce qu'elle lui trouve tous les... tous les défauts, mais en même temps, elle dit « je l'ai choisi, donc je dois presque le subir ». Est-ce que c'est pour ça qu'elle subit même l'innommable ?
C'est quelqu'un qui est... qui a le dos courbé des responsabilités qu'elle croit devoir porter. Et en même temps, vous me demandiez comment elle peut aimer cet homme-là. Cet homme-là lui permet aussi parfois de montrer sa face un peu démon en fait à elle aussi, sans en porter vraiment la responsabilité. En même temps, elle porte des responsabilités qu'elle ne devrait pas porter. En pensant qu'avec l'éducation qu'elle a eue, etc., elles doivent subir, puisque ça a été choisi, fait comme ça, tracé comme ça. Et en même temps, en restant avec lui, ça lui permet vraiment de parfois d'exprimer ou de faire des choses qu'elle n'aurait jamais faites si elle avait vécu avec un homme, alors classique ou normal, je ne sais pas trop comment dire, mais en tout cas, ça lui permet de faire elle aussi des choses... qu'on peut trouver moins respectables, en tout cas, qui sont plus borderline.
Quand même, Isabelle a une amie, elle s'appelle Louise. Est-ce que justement, cette Louise comprenait Isabelle ? Parce qu'à un moment, moi, j'ai l'impression qu'elle trahit Isabelle. Ou alors, je me suis trompée, je ne l'ai peut-être pas trop bien compris, mais cette amie était là pour la soutenir, pour rigoler, pour tout faire ensemble, passer de bons moments, lui faire oublier les mauvais moments. Mais quand même, elle trahit, quoi.
Elle trahit et puis elle trahit parce qu'elle aussi se sent trahie. Elles avaient un bout de chemin à faire ensemble, elles l'ont fait. Leur début d'amitié a été aussi foudroyant et intense que sera leur fin d'amitié. Elles se sentent trahies chacune de leur côté, très clairement. Et Louise est aussi beaucoup dans le jugement. Comme vous le disiez, je crois que Louise a été là pour les plutôt bons moments. Et quand elle a senti, ou en tout cas quand elle a vu quelque part qu'Isabelle aussi peut-être allait lui échapper, ou en tout cas aller faire... pas trop comment dire, mais aller grandir un peu de son côté sûrement, puisqu'elle commençait déjà à s'épanouir différemment, mais je crois aussi que ça a fait que les deux se sont trahis, vraiment.
Mm-hmm. Il m'a semblé aussi à la lecture, à un moment, que c'est Louise qui a jeté Sébastien dans les bras d'Isabelle. Qui est Sébastien ?
Eh bien, Sébastien, c'est le frère de Louise dans le livre.
Oui.
Après, dans la réalité, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, ce personnage-là a été inventé. Mm-hmm. Moi, je dirais que c'est le hasard et le destin qui a fait que ces deux personnages se sont rencontrés pour que Isabelle, qui avait déjà fort à souper chez elle, eh bien, on soupe encore un petit peu plus, parce que tant qu'à faire, c'est dans la laideur que... On dit que c'est dans les ténèbres que jaillit la beauté. Bah là, c'est pareil, vous voyez, ça reprend aussi l'histoire de Karl, comme si Isabelle n'en avait pas assez. Ben, derrière, elle se rajoute de la laideur et de la beauté avec cette histoire.
On va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi une chanson d'Edith Piaf, « Rythme à l'amour ». Ça s'est imposé à vous ?
Oui, c'est ma chanson. Alors, Edith Piaf, pour moi, c'est un monument. C'est toute mon enfance. En fait, elle m'a suivi d'ailleurs toute ma vie, puisque j'allais dire mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Cette chanson en particulier que je trouve extraordinaire et que quasiment à chaque fois que j'écoute, je pleure. Voilà, c'est vraiment une chanson qui est épidermique pour moi.
Alors, préparez votre mouchoir parce qu'on l'écoute.
Sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ne m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour, la vie t'arrache à moi. Si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Écoutez Page après Page et nous recevons aujourd'hui Laure Frotin qui nous présente son livre Printemporel paru chez GDH Édition. Et merci Laure pour cet intermède musical. Nous parlions d'Isabelle et de son malheur et Louise, son amie, se fâche très profondément et elle laisse Isabelle à son sort. C'est contradictoire parce que comme elles passaient d'agréables moments ensemble, on aurait pu croire que justement Louise aurait accompagné Isabelle bien plus loin. C'est même cette gifle qui finalement met fin à cette amitié.
Oui, leur amitié est comme la passion. D'ailleurs, c'est une amitié passionnelle qui n'est basée que sur soit de très bons moments parfois dans l'excès, ou soit de moments très forts, dans la destruction finalement, ou dans la colère. Et oui, la gifle, la fin d'une amitié, très clairement.
Ouais. Est-ce qu'Isabelle comprend là, alors que tout est perdu, avec justement sa meilleure amie?
Oui. Isabelle sait que tout est perdu avec sa meilleure amie. Je crois qu'elle l'a su avant, mais comme ce qu'elle fait dans sa vie de tous les jours, elle essaie de sauver toujours et de garder espoir. Mais Isabelle en avait déjà conscience que son amitié, elle la mettait sur la sellette.
Mmh. Isabelle a été élevée dans l'amour. Ses parents l'ont élevée avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de courage. Comment est-ce que Karl a fait pour l'aveugler comme il l'a fait?
Parce qu'au départ, Karl n'était pas la personne qu'il est devenu et qui est d'ailleurs le personnage prépondérant, le caractère qui est dans tout le livre. En fait, Karl au début n'était pas comme ça, c'était quelqu'un de plutôt banal. Et en fait, la question à se poser, c'est comment Karl en est venu à être ce personnage-là, à être lui entraîné dans la boisson. La question pourrait être d'ailleurs développée, pourquoi pas, dans une suite, ou en tout cas où on peut voir un autre versant, l'autre face du miroir, pourquoi pas.
Oui, on ne sait jamais.
On ne sait jamais.
Tous ces mots crus que l'on trouve dans le livre, remuants, très forts, très durs, comment est-ce qu'on peut les écrire? Est-ce qu'on pleure d'abord quand on écrit ces mots-là? Parce que ça revient tout en mémoire.
Moi, c'est quand j'ai écrit le livre, j'ai pleuré. Oui, il y a eu des passages où j'ai pleuré, mais pleuré ou de soulagement, de tristesse. Mais c'était beaucoup de soulagement, en fait. Et j'ai beaucoup tremblé, surtout. Voilà, moi, c'était trembler parce que les mots sortaient trop vite. Comme un geyser, où écrire des pages et des pages sans m'arrêter, parce qu'en fait, il y a eu vraiment des moments où les mots s'imposaient. Donc oui, pleurer, trembler, même râler, parce qu'on se dit mais c'est pas possible. Comment c'est possible d'avoir tenu comme ça? Et parfois même j'ai ri, j'ai souri beaucoup aussi, parce qu'il y a un personnage très important pour moi dans ce livre, un personnage qui existe, qui est la mamie d'Isabelle. Oui. Moi, en tout cas, quand j'écrivais comme ça sur mamie, je souriais, j'étais avec elle. Je remercie ce livre-là aussi parce que ça m'a permis de revivre des moments, des émotions que je vivais avec mamie. Et c'est ça, pour moi, ça fait partie des choses très importantes aussi.
Mmh. En effet, c'est très fort. Comment on peut expliquer le magnétisme qui attire Isabelle vers Sébastien, malgré qu'elle sache qu'elle ne pourra jamais rien partager avec lui, parce que lui, quelque part, il joue d'elle?
Oui, alors le magnétisme, très sincèrement, je crois que ça ne s'explique pas, en fait. Ça ne s'explique pas. Et je crois que Isabelle a vu en lui la porte de sortie. Et c'est pour ça, c'est ce qui a sûrement aussi rajouté au magnétisme physique déjà, hein, parce que c'est un très bel homme. Et elle a vu en lui vraiment une porte de sortie et un moyen de vibrer, chose qu'elle n'avait plus depuis des années.
Elle a été malheureuse finalement que Sébastien lui avoue toute la vérité et qu'il la délaisse comme ça.
Ah oui, plus que malheureuse, je pense que ça l'a détruit, et cette histoire l'a plus détruit d'ailleurs que finalement les années qu'elle a passées avec Karl et ce qu'elle a pu endurer avec lui.
Oui.
Je pense que l'histoire avec Sébastien était beaucoup plus destructeur que ce qu'elle pouvait vivre et continuer à vivre avec Karl. Ouais.
Mm-hmm. À la page 240, vous avez écrit « Je méritais ces coups ». Est-ce que ces mots ont été difficiles à penser, à dire et à écrire?
Non, parce que... Non, non.
C'est quand même fou qu'Isabelle dise « Mais je mérite ces coups » alors qu'elle ne faisait rien. Qu'elle ne faisait rien de... Enfin oui, de méchant, quoi. Elle vivait, elle entretenait sa maison, elle était à la merci de son bourreau, c'est tout.
Oui, mais vous avez dit les mots, elle ne faisait rien. Elle n'a rien fait non plus pour partir quelque part. Et c'est pas du tout... Enfin, il n'y a aucun jugement. Hein, c'est, je pense qu'à partir du moment où on accepte aussi de rester et de subir ça, donc on l'accepte. Donc je ne vais pas dire qu'on le mérite, effectivement, qu'elle ne fait rien pour avoir, mais en restant, on a, en fait, on a ce qu'on. Bah, si on a ce qu'on mérite, on reste. Donc on prend les coups et on accepte. Et parfois, je pense même que certaines choses qu'elle fait ou ne fait pas, dans sa tête, elle est persuadée qu'elle les mérite. Vraiment. Oui.
Alors, Isabelle, quand même, elle ne reste pas non plus sans rien faire. Elle voudrait peut-être s'en aller, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, elle avait trouvé la parade. Elle tentait de calmer Karl à dose de raticide. Est-ce que c'était l'insupportable qui l'animait alors? Parce que c'est un moyen comme un autre, finalement.
En fait, je pense qu'elle essaie, mine de rien, de trouver la manière de partir sans partir, en tout cas d'arrêter de vivre cette vie sans partir. Et quelque part, ça montre aussi que quelqu'un qui peut paraître c'est pas faire pitié, mais en tout cas qui peut quand même générer un sentiment de pitié, bah, peut aussi faire des choses ignobles, en tout cas tenter la tentative de meurtre et oui, quand même pas quelque chose.
À un moment, moi, enfin, la lecture, ça ne m'a pas tellement choquée parce que j'ai dit elle en subit tellement que c'est aussi une porte de sortie, quoi.
Oui. Mais ce que je trouve dingue, en fait, c'est qu'on arrive aujourd'hui à se dire on a tous les droits à partir du moment où on subit l'innommable, l'ignoble, ben nous aussi on a le droit de faire ça. Moi en soi aussi, là c'est quelque chose qui a été complètement inventé, hein.
Oui,
c'est parmi des choses qui ont été inventées. mais j'avoue que ouais, je pense que parfois c'est vrai que quand on est en fait on est sans porte de sortie. Bah oui, c'est vrai que ça peut paraître... c'en est une, hein.
Bien sûr.
C'en est une, voilà.
Bien sûr. Vous avez écrit aussi des scènes de sexe imposées et je ne lui en voulais pas. Alors ça, c'est fou parce que dans quel état elle est Isabelle dans ces moments-là? Parce qu'elle sait où c'est ça, où c'est le viol, où c'est les coups.
Ouais. Non, dans ces moments-là, Isabelle, elle aurait envie de mourir, tout simplement. Parce que autant les coups, c'est physiquement dur, autant se faire violenter et violer par son conjoint. Là, on est dans le psychique. Et pour Isabelle, hein, j'entends après, ça reste vraiment dans le périmètre du roman. Isabelle, le personnage d'Isabelle, physiquement, est quelqu'un de très chétif et pourtant qui a une force physique assez dingue et qui a une force de résistance aussi assez dingue. Par contre, psychologiquement, c'est quelqu'un qui est anéanti. Voilà, ce personnage-là, et c'est ce qui fait aussi sûrement qu'elle reste aussi avec Karl. Mais dans les moments de scène, ces moments d'actes sexuels imposés, forcés, elle se dégoûte, elle préférerait clairement mourir.
Voilà, oui,
c'est le seul moment où il n'y a pas de lueur d'espoir, d'ailleurs.
Oui. Vous écrivez aussi, il perdait le contrôle, il ne se contrôlait plus tous les jours, des coups plus durs, avec plus de rage. Vous le disiez au début de l'émission, ce livre c'est aussi une thérapie pour vous, puisqu'il y a des moments, des pages, des mots que vous avez écrits et que vous avez vécu.
Oui.
Et là, vous avez fait rejoindre la fiction avec le réel. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tous ces mots, tous ces... ces pertes de contrôle quand Karl ne se contrôle plus, est-ce que ça s'est mêlé avec la fiction et le réel? Et est-ce que c'est difficile de l'écrire?
De l'écrire, vraiment non. Je le redis, je persiste et je signe. L'écriture pour moi a été vraiment... ça a mis très très longtemps à sortir, mais quand c'est sorti brut tel quel et... Donc non, au contraire, ça a fait du bien quand c'est
une
sorti.
Thérapie profonde.
Ah oui, une vraie thérapie. Et sur le moment, Finalement, je peux même pas vous dire que quand on est dans la situation et la tête dans le guidon, si on peut dire ça comme ça, en tout cas, on le voit pas. C'est avec le recul qu'on se dit, mais ça a commencé comme ça et à la fin, c'était comme ça. Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment eu une progression et à la fin même, il y avait du plaisir destructeur, alors qu'au début, peut-être que c'était pas comme ça. Mais c'est avec le recul qu'on voit que ça, qu'une situation en fait s'empire.
Oui.
Mais quand on est dedans, on le voit pas en fait.
Oui. Alors je veux pas dévoiler la fin et la chute de ce livre parce qu'elle m'a paru normal. Pourquoi est-ce que Isabelle n'a pas pris un fusil et tué Karl correctement, quoi? Parce qu'à un moment, il n'y a pas d'issue.
Pourquoi? Parce que, je sais pas. Je pense que c'était pas comme ça que qu'elle voyait, qu'elle envisageait. Je peux même pas vous dire. Peut-être qu'elle aurait plus pris un fusil et se serait tuée elle, ou peut-être qu'elle se serait noyée. Ouais, je pense plus, puisque il y a des choses comme ça les futurs lecteurs le découvriront.
Tout à fait.
Je pense que si elle avait dû prendre un fusil, c'était plus pour se tuer elle que le tuer lui, puisque lui, clairement, je pense que pour Isabelle, cet homme était déjà mort depuis longtemps.
Oui, en effet, ça, on le comprend des fois entre les lignes ou dans les points, ça se comprend. Votre roman, Printemps pour elle, a été sélectionné pour le prix de la Closerie des Lilas. Est-ce que c'est une récompense aussi pour vous ?
Oh, ça a été une surprise, surtout en fait, parce que déjà, le livre n'avait pas forcément vocation à être édité. Ça s'est fait très vite, et puis, et tant mieux. Et c'est vrai que tout s'est enchaîné. Je devais même faire, avant le premier confinement, je devais faire le salon du livre à Paris. Enfin, voilà, pour moi, c'était un début d'année 2020 qui aurait été assez extraordinaire avec la sélection pour la Closerie des Lilas, le salon du livre, et puis je devais aussi faire une émission de télé à Paris. Bon, bah après, tout a été annulé forcément avec l'arrivée du virus et des confinements.
Mais, merci.
Une grande surprise.
Merci beaucoup, Laure, de nous avoir entraînés dans la vie d'Isabelle, une vie que peut-être il y en a qui la vivent et qui peut-être trouveront dans ce livre du réconfort ou peut-être du courage, on ne sait pas. Peut-être que vous aurez sauvé du monde avec ces pages que vous avez noircies de ces petites phrases bien ponctuées, juste un mot. C'est quelque chose de très très fort puisque vous avez écrit comme on reçoit des coups.
C'est ça.
Merci d'avoir osé et pu écrire sur ce sujet. Comment est-ce que vous vous êtes sentie à la dernière phrase? Parce qu'il y a de l'espoir finalement dans la vie d'Isabelle à la fin.
Ah ouais. Complètement. Je me suis sentie soulagée et heureuse et fière. Je pense que c'est la fierté d'abord qui a vraiment... le premier sentiment, c'était la fierté.
Oui.
Et puis un grand soulagement. Et puis après, un bonheur fou que je me suis hâtée de partager avec ma maman notamment.
Oui.
Qu'on peut retrouver puisque Marguerite, un des personnages du roman, c'est ma maman. Et c'est vraiment l'histoire de ma maman.
D'accord.
Donc,
Une belle histoire, là.
Oui. Ah oui, oui.
Je suppose qu'Isabelle devait en souffrir, parce que même Marguerite, elle a souffert pour sa fille, finalement.
Et oui, oui, oui. Et ça, on s'en rend compte des années et des années et des années après, parce qu'un livre sort et parce qu'on peut en parler.
Mm-hmm.
C'est pour ça que l'écriture, pour moi, est salvatrice, encore une fois.
Oui. Et donc, Marguerite n'a jamais rien su de tout ça ?
Oh, si, mais... pas comme ça.
D'accord.
Là, le livre a été une découverte d'horreur, hein, mais et en même temps, je pense qu'une maman sent beaucoup de choses, donc ça a été la découverte et en même temps, certaines fois, de la redécouverte, je crois.
Mm-hmm. Laure, y a-t-il un autre ouvrage en route ?
Oui.
Est-ce qu'on peut ouvrir la page de garde ou pas ?
On peut ouvrir la page de garde, oui, oui. Un livre qui va être écrit de manière un peu similaire, parce qu'en fait, je crois que c'est ma façon d'écrire. Après, moi, je suis toute jeune auteur, hein, quand on n'a fait qu'un livre. mais bon, c'est ma façon d'écrire, on retrouvera ça. Un livre beaucoup plus, beaucoup moins brut, beaucoup moins, alors dur, peut-être moins violent,
oui,
mais justement sur la face cachée du miroir dont je vous parlais tout à l'heure.
D'accord.
En tout cas, il a bien avancé, mm-hmm, et j'ai bon espoir pour le sortir cette année.
Bon, parfait. Donc, à venir à Page après Page.
Ouais, avec grand plaisir.
Mais Laure, je vous remercie encore une fois parce que c'est vrai que Magnitude est de 8. Je dirais qu'elle est un vrai tsunami dans la vie. Et pour finir cette émission, vous avez choisi Ólafur Arnald. Dites-nous dans le mot de la fin pourquoi et puis ce que vous envisagez peut-être.
Eh bien, le bonheur n'attend pas, parce que c'est le titre, en anglais en tout cas, traduit en français de la chanson, de la musique qu'on va écouter après. Mm-hmm. Faut la pensée positive, le bonheur et l'espoir, mine de rien, ça sauve.
Ouais. Est-ce que le bonheur est simple ou pas?
Non, le bonheur, ça s'acquiert à chaque instant, surtout dans nos vies actuelles. Mm-hmm. Et surtout, particulièrement depuis un an, où on sent qu'il y a vraiment une ambiance, en tout cas, parfois du découragement. Et en fait, de plus en plus, le bonheur est dur. Le bonheur, chaque jour, on doit se battre pour le conserver.
Mm-hmm. Ben, merci beaucoup, Laure. Et puis, on vous souhaite, bien sûr, de sortir ce livre rapidement et en faire profiter tous nos auditeurs.
Merci beaucoup.
À bientôt, au revoir.
À bientôt. Thank you.
C'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur. Mmh.